tous les deux, peut-être pour commencer, on voudrait peut-être avoir pas un petit mot de, sur chacune des associations que vous représentez, WECF et Génération Future, pour les gens qui ne connaissent pas forcément ce que font ces deux structures. Bon, vas-y, Dominique.
Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, WECF est une organisation qui s'occupe de santé et d'environnement avec un regard particulier qui est sur le genre, parce que les femmes...
Le micro, ça, plus proche.
D'accord. Parce que les femmes sont les premières, la plupart du temps, touchées par tout ce qui est perturbateur endocrinien, santé environnementale. Ce sont celles qui sont souvent mises de côté, dont on ne tient pas compte, même professionnellement. Une secrétaire qui a travaillé dans l'amiante, et qui était au premier étage d'un bureau, n'était pas reconnue comme si elle était atteinte d'une maladie, d'un cancer ou autre. Elle n'était pas reconnue comme maladie professionnelle à la fin de sa carrière. Quelle que soit sa maladie, on n'en tenait pas compte. Donc il y a toujours une discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est pour ça que WECF a voulu s'occuper tout particulièrement de la santé et de l'environnement de la femme, de l'enfant, dans tous les différents aspects. Et nous avons en particulier, dans le cadre de la prévention, créé deux sites et des actions particulières, Ma Santé, Ma Maison, d'une part, et d'autre part, nous sommes beaucoup plus connus par rapport à ça, c'est nos ateliers nesting. Alors, il y a deux formes d'ateliers nesting que nous avons, celle destinée aux professionnels de la santé, tels que les sages-femmes, les infirmières en particulier, et aussi des ateliers nesting pour grand public, où en ce moment, par exemple sur Paris et à Annemasse, du côté d'Annemasse, nous organisons ce soir, différents ateliers avec d'autres associations. Donc voilà un petit peu la présentation de WECF, son travail qui concerne beaucoup plus tout ce qui est biocides. Ce sont les pesticides qui rentrent dans tout ce qui est domestique, disons. Dans les produits nocifs, nous avons dernièrement eu un rapport dont la presse a beaucoup parlé, qui est le rapport concernant les cosmétiques pour enfants, pour bébés, où les adultes, les parents ne se rendent pas compte que certains produits qu'on donne, même dans les maternités, qu'on vous offre tout simplement à la naissance d'un bébé, contiennent des produits à haute toxicité à long terme, très peu en produits bruts, mais en quantité exponentielle, disons, mélangés à d'autres produits, forment de véritables bombes perturbantes et qui mettent en danger la santé. J'ai été un peu longue sur ma présentation. Je ne peux pas.
Merci. Là, je suis là au nom de Génération Future. Donc, c'est une association de défense de l'environnement qui est un petit peu spécialisée dans la lutte sur les pesticides et qui réalise un certain nombre d'études. Et donc, vous devez la connaître au moins par notre porte-parole et qui maintenant va devenir le directeur François Veillerette, que vous avez vu dans le reportage à deux reprises, hein, qui parlait près des écoles. Et donc, c'est une association qui... est assez dynamique, c'est pour ça que je l'ai rejoint, et qui n'est pas étrangère à la loi de l'abbé, à toutes les interventions qu'il y a autour de l'intoxication des riverains, donc que ce soit les écoliers, que ce soit les riverains des vignes ou des cultures de manière générale en France. Donc voilà, vous avez une petite idée de l'association. Et en ce qui concerne la viticulture, c'était en 2013, Génération Future avait fait deux études particulières pour soulever le problème, notamment de l'intoxication des riverains, de la contamination. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une étude un petit peu originale. Ils avaient pris les cheveux de viticulteurs et d'ouvriers de la vigne, de gens qui vivent, c'était dans le Bordelais, ou qui sont riverains de ces vignes-là. Et comme témoins, donc, ils avaient pris des gens qui habitaient... plus loin, et sans trahir les secrets, il y avait, je crois me souvenir, les cheveux d'un certain nombre de militants de Génération Future qui n'habitent pas près des vignes. Et là, donc, on avait recherché une trentaine de molécules de pesticides. et on en avait retrouvé 22. Et donc, pour vous donner l'ordre d'idée, les gens qui habitaient hors des zones viticoles en avaient une ou maximum deux. Ceux qui étaient riverains des vignes en avaient 5 ou 6. Et donc, il y en avait 11 ou 12 chez les ouvriers viticoles. Donc, on passait, les gens qui n'étaient pas exposés, quand on passe aux riverains, on avait 5 fois plus de contamination et en nombre. Et lorsqu'on passait aux ouvriers viticoles, qui eux sont tous les jours dedans, taille, sont au contact des bois, de la vigne, c'était 11 fois plus. Donc, ça pointe le fait que les épandeurs sont, et les agriculteurs, en règle générale, c'est ce que je dis toujours sur les pesticides, sont les premières victimes, on le sait bien. Les maladies professionnelles, je ne vais pas les énumérer une fois de plus, il y en a de plus en plus, hein, les tableaux apparaissent les uns après les autres de maladies professionnelles, il va y en avoir d'autres, forcément, enfin en tout cas on le souhaite, pour reconnaître la réalité de toutes ces maladies. Et donc, ce sont les premières victimes, mais donc on voit bien que les riverains, notamment dans les zones où il y a de très très forts épandages, et la particularité peut-être de la vigne par rapport à nous, la Bretagne, c'est que c'est des petites surfaces quand même. J'ai regardé les chiffres avant de venir pour vous donner des informations un peu précises. La vigne, c'est moins de 4% de la surface agricole cultivée en France. Ça concentre 20% des pesticides, et notamment sur les champignons, jusqu'à 80% des fongicides. Donc il y a des grandes différences selon les régions, et c'est pour ça que bon, vous avez l'air d'être sensibilisé à cette question. Vous avez dû regarder ou entendre parler de la fameuse émission Cache Investigation qui a un peu secoué les cocotiers sur les pesticides. Et c'est vraiment du bon travail qui a été fait. Et en fait, il pointait que dans les pesticides les plus dangereux, donc ceux qui sont cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, on aurait pu rajouter la neurotoxicité, mais bon, c'est pas classé comme ça. Les trois grandes régions qui étaient les plus exposées, c'était les régions viticoles, le Bordelais, le Pays Nantais et la Champagne. Donc, ce film pointe ça. Alors, nous, on est un petit peu en dehors, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis avec les pesticides, vous le savez bien, et par ailleurs, vous avez dû en entendre parler, donc j'essaie de les soutenir dans la mesure du possible. Hein. Il y a en Bretagne les fameux phytovictimes, enfin on préfère maintenant dire victimes de pesticides, parce que phytovictimes, on reprend phytosanitaire, c'était inventé par le lobby de la chimie pour ne pas parler de pesticides. Donc notre collectif va s'appeler maintenant collectif des victimes de pesticides. Et pas loin d'ici, vous en souvenez, on en entend souvent parler, ça va continuer. La lutte n'est pas finie pour eux. C'est les fameuses victimes du Triatris Calia, les intoxiqués de Plouisie. Donc il y a les agriculteurs, mais il y a aussi tous les employés de l'industrie agroalimentaire. Et il n'y en a plus en France même. Mais les ouvriers qui travaillent à la production également des pesticides, des maladies et de nombreuses maladies professionnelles reconnues. Donc, voilà, vous êtes, je sais, un public conscient, c'était un petit rappel. Et puis, on va passer sans doute aux questions, c'est plus intéressant de fonctionner comme ça.
Oui, moi j'avais juste une question. Est-ce que les riverains sont aussi concernés en Bretagne, comme on a vu dans le documentaire, par les problèmes liés aux pesticides? Parce que là, on voit que, par exemple, dans les écoles, il y a quand même du danger. Parce qu'en Bretagne aussi, on a la même situation.
Oui, le problème des riverains, il est universel, hein, et il est reconnu. Je relisais, comme ça, pour clarifier les choses, et j'insistais là-dessus, justement. Il y a donc des études maintenant qui font référence sur les maladies qui sont reconnues attribués aux pesticides, donc on parle toujours des maladies des professionnels, on ne va pas revenir forcément des agriculteurs, mais il y a un chapitre dans toutes ces expertises-là, donc, qui sont faites par des instituts nationaux, je vais citer pour ne pas être trop lourd, que l'expertise officielle de l'INSERM, qui est sortie en 2013, qui a fait une grosse synthèse, même si on aurait des critiques à apporter, bref, c'est un énorme pas en avant, il y a une reconnaissance par l'organisme officiel de référence d'un certain nombre de maladies, d'un grand nombre de maladies liées aux pesticides en exposition professionnelle, mais pour les riverains et également pour l'exposition domestique à domicile. Donc il y a des biocides dont tu as parlé, mais en fait, il y a plein de pesticides dans nos maisons et on l'oublie si on ne fait pas attention. Bon, bien sûr, tout le monde sait qu'un certain nombre utilisent encore des insecticides pour tuer les insectes, les mouches,
dans leur maison, mais il y a tous les antipuces, tous les colliers antipuces de nos animaux domestiques, et bien ils contiennent des organophosphorés. Le produit dont parlait le professeur Fournier, là, enfin cette famille-là, qui était censée améliorer les choses. Donc les enfants qui jouent avec leurs chiens et tout, s'imprègnent d'organophosphorés. Il y a des traitements antifongiques, les mêmes fongicides qu'utilisent les viticulteurs, qui sont vendus dans les jardineries ou dans les supermarchés pour traiter les champignons ou les maladies ou les acariens des plantes. Donc il y a plein de sources d'utilisation de pesticides, sans parler des textiles, un certain nombre de meubles ou même destinés à l'aliment, qui sont traités par des fongicides. Donc il y a de multiples sources de contact. Mais en tout cas, dans ces études-là, pour revenir à l'expertise, il a été pointé qu'il y a des risques avérés, donc personne ne peut discuter ça, ça a été admis par des comités de scientifiques. Et donc le premier risque qui est général, aussi bien pour les riverains que à la maison, les pesticides utilisés à la maison, ou si on est intoxiqué, contaminé par son voisinage, donnent un risque de leucémie. Donc, non seulement pour les personnes, pour les enfants, mais également pour les enfants à naître. Donc les femmes enceintes exposées vont avoir des enfants qui auront un risque plus important d'avoir une leucémie. Et un autre risque qui a été pointé, c'est les enfants nés de maman ayant été exposés soit en tant que riveraine, soit à domicile, risquent plus d'avoir des troubles du développement neurologique, des retards mentaux, des troubles du comportement, enfin tous les problèmes neurologiques des enfants dont on parle beaucoup aujourd'hui, eh bien il y a un lien qui est affirmé. De la même manière, les quatre grandes maladies à risque pour les agriculteurs, donc il y a une forte présomption que ces quatre grandes maladies que j'ai rappelées, comme rappel, je vais vous le dire après, il y a le même risque en exposition en tant que riverain et à domicile. Et ces quatre maladies, c'est le cancer des ganglions, c'est un cancer du sang qui s'appelle le myélome, c'est le cancer de la prostate, et c'est une maladie neurologique, la maladie de Parkinson, qui est maintenant une maladie professionnelle des agriculteurs, utilisateurs de pesticides. Donc vous voyez qu'il y a des expertises et des rapports officiels qui pointent maintenant, et ça c'était depuis 2013, les dangers réels des pesticides pour les riverains et aussi en utilisation à domicile. Voilà.
Je voudrais juste rajouter qu'il y a le dernier rapport de l'ANSES concernant le glyphosate de début février qui reconnaît les graves dangers. Et ce rapport va à l'encontre d'un autre rapport qui vient juste d'être fait et où l'ANSES a un courage qui est quand même remarquable. C'est de dénoncer ce que l'EFSA, l'organisme spécialisé européen, qui venait juste d'être produit, ce rapport disait qu'il n'y avait aucun danger, alors que l'ANSES a eu le courage d'aller à l'encontre du rapport européen. Et ça, il faut dire que c'est une évolution importante de l'agence nationale.
Je me permets de rebondir,
tu as parfaitement raison, je parlais en général, et si on veut un peu préciser notamment le risque sur les pesticides en Bretagne, en tout cas le pesticide sur lequel on doit faire porter notre énergie militante, c'est bien le glyphosate, le principe actif de Roundup, toutes les formulations de glyphosate, c'est en discussion actuellement, l'Europe devait le reconduire, la décision devait être prise là en février ou mars, finalement il y a une pression des militants environnementalistes et des gens qui se préoccupent de la santé. Et donc la décision a été reportée en juin, c'est pas gagné, il faudra absolument se mobiliser pour qu'elle ne se soit pas réautorisée, puisque ça ne vous a pas échappé, l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a classé ce pesticide cancérigène. Donc c'est le premier, si on veut situer les problèmes en Bretagne, c'est le premier pesticide épandu en Bretagne. On est pratiquement à 300 tonnes sur les plus de 2000 tonnes qui sont épandues en Bretagne. Et en plus, on en parlait tout à l'heure entre nous, on importe beaucoup de soja OGM. Il y a jusqu'à 20 mg par kilo de résidus, donc ça fait des tonnes, on a fait le calcul avec les associations environnementales bretonnes, et au moins 20 tonnes en plus qui sont rajoutées, donc ce n'est pas négligeable par rapport aux 200 tonnes dont je vous parlais avant, qui sont importées par les OGM. Et la lutte actuellement, c'est vraiment autour de ce problème de glyphosate. Et donc, il y a de multiples études, il y en a une qui est sortie chez les Allemands, qui démontre que la population est imprégnée à un taux qui ne s'explique pas par les contacts avec les pesticides. Donc, il y a d'autres sources de contamination, peut-être l'alimentation OGM qui comporte beaucoup de résidus de pesticides. Et donc, en Bretagne, ça a été étudié dans les années 2000 par des gens de l'INSER. Donc, si vous n'avez pas le souvenir de ça, je vais vous le dire. Moi, je trouve ça vraiment très inquiétant. C'était, comme on n'a pas beaucoup de données sur l'imprégnation des populations, dans les années 2000, les autorités ont commencé à se soucier du problème des pesticides et ont fait des études pour avoir une cartographie de la contamination des populations. Et donc, l'INSER a fait le dosage du glyphosate dans les urines, donc du Roundup, dans les urines de 50 femmes enceintes en Bretagne. Donc, il y avait les Finistériennes, les femmes du Côte d'Armor et les Vilaines. Eh bien, plus de la moitié, presque la moitié de ces femmes-là, il y en avait 43%, avaient ce pesticide dans les urines, à des taux 2 à 3 fois le taux qui est autorisé dans l'eau de boisson. Donc, la contamination ou l'imprégnation est plus importante que ce qui est toléré dans l'eau de boisson, c'est quand même assez choquant, en premier trimestre de grossesse. À l'époque, ce n'était pas classé cancérogène. Maintenant, on sait que ce produit est cancérogène. Et donc là, les Allemands ont refait les associations environnementales, parce que les agences officielles ne voulaient pas le faire. Ils ont pris, il y a 2009 exactement, Allemands dans l'étude, pratiquement 100% ont du glyphosate dans leurs urines, plus d'autres métabolites. Donc il y a un problème d'imprégnation de la population, avec un produit qui vient d'être classé cancérogène. Et là, il faut que les consommateurs se saisissent de ça pour peser sur la Commission européenne qu'elle ne réautorise pas ce produit. Et là, ça ne peut passer que par les associations de consommateurs. Les environnementalistes, instituts, on ne sera pas assez puissants. Il y a visiblement une imprégnation générale de la population qui est probablement de source alimentaire. Et donc, à mon sens, ça ne peut passer que par les associations de consommateurs. Donc, si on pouvait passer le relais, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut que la pression s'exerce avant fin juin. Mais c'est possible de gagner. C'est possible de faire interdire. Ce serait un coup de tonnerre, un séisme dans le monde des pesticides, mais ce n'est pas impossible.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des remarques?
On se rapproche. Jean-Yves Masson, je suis agriculteur à Saint-Jean-de-Loire en conventionnel. Donc j'utilise des insecticides, des pesticides. J'accouple ce que disait l'agriculteur Saint-Jean-de-Loire, hein, de façon dont généralement c'est Paris qui décide, et puis tout le monde doit faire, et c'est une catastrophe. On voit bien de toute façon que tout est décidé en haut, et puis on s'en fout de la réalité locale. Donc c'est une catastrophe ce qui se passe, des décisions comme ça. Pour revenir sur Roundup, moi je l'utilise très très peu. J'évite d'utiliser ça. Par contre, j'en ai besoin à certains moments quand il y a des problèmes de mec. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une racine. Et pour décrire ça, si on passe le broyeur, ça fait plein de petits morceaux et c'est encore pire. Donc c'est vrai que quand on empêche quelque chose, pour utiliser en plein dans les champs, je pense qu'on peut vraiment éviter ce produit-là. Par contre, interdire en totalité, il faut encore autre chose. Parce que dans ces cas-là, vous allez arrêter la production de légumes en Bretagne. Le chou-fleur, artichaut, notamment l'artichaut qui a ce que de l'herbe. Donc voilà, c'est bien d'interdire les choses, mais je pense que des fois, il faut donner des petites autorisations locales.
Moi,
parce
que de là, je reviens de Bretagne, je suis ingénieur agro. Et il faut quand même se rendre compte que par exemple la production de légumes existait avant le monde. Il faudrait retrouver les techniques qui existaient. Et c'est ça le problème agronomique. Le problème agronomique qu'on vit aujourd'hui, d'accord, c'est qu'on a simplifié. Mais bien sûr, c'est ça qu'il faut retravailler. Le travail de l'agriculteur, le travail de vos parents, de vos grands-parents, c'était quand même de réfléchir, de travailler avant les...
Le problème, c'est qu'il y avait plus de main-d'œuvre, ils avaient le temps d'aller
et voilà. Les choses. Quoi. Et voilà, il y avait plus de main-d'œuvre. Eh bien oui, et regardez, en 20 ans, en Bretagne, on est passé de 100 000 agriculteurs à 35 000 ou quoi. Ouais. Hein, 30, ça dépend comment on prend les chiffres. Mais c'est ça aussi le problème. Moi, je suis désolée, l'agriculture, c'est quand même de la main-d'œuvre. Alors, on a remplacé par la main-d'œuvre, par la mécanisation, par la chiffre. Et alors, voilà. Les effets collatéraux, c'est que, un, les agriculteurs ont fait du pesticide parce qu'ils sont hyper endettés et on va de crise en crise et ça va pas donner. Et deux, il y a une intoxication en premier des agriculteurs, parce que c'est eux qui sont les plus intoxiqués de ce qu'ils utilisent tout le temps les produits. Et après, la contamination générale de la population. Par l'accumulation, il y a certains produits quand même, heureusement peut-être pas ici en Bretagne, mais on a quand même le lavande, par exemple, qui est persistant à plus de 200 ans. On a d'autres molécules qui ne sont pas utilisées en France, mais qui ont plus de 700 ans de persistance. Donc, c'est le problème de la chimie, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on a pensé trouver un produit miracle. Mais le miracle se transforme en diable, là, aujourd'hui. C'est ça. Donc, de dire qu'il faut peut-être les garder. C'est comme si on ne les avait pas surutilisés, on n'aurait peut-être pas ce problème-là. C'est parce qu'on a voulu faire réponse à tout.
D'accord, mais en attendant, celui qui a une situation, qui a des enfants à l'école, il faut qu'il rembourse ses enfants et il faut qu'il les paye la scolarité. Donc,
mais oui, mais comme ça, on en sort jamais.
Il faut une solution pour envoyer des projets pour vous, quand même, quoi. C'est sûr que nous, en démarrant le mois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir. Certains, ils sont sûrs à l'année, qu'est-ce qu'ils vont avoir à la fin de l'année, je crois. Par contre, nous, on a besoin quand même d'envoyer une culture un petit peu. C'est pour ça, contre l'utilisation totale, je pense que nous, il faut la raisonner et il faut vraiment cibler, quoi. Je pense que nous, on a fait un travail avec la Chambre d'agriculture. On a envoyé ça, donc je le fais passer parce que c'était. Je vais donner l'exemple de ce qu'on a fait en artichaut ici. Parce que l'artichaut, c'est un des IFP le plus bas qui est. En chou-fleur, on est à 2,5 en Bretagne, ils sont à 4,5 dans le nord de la France. En artichaut, on est à 2,5 aussi en canement. Quoi. Donc c'est vraiment, comparé à ce que vous avez montré en vigne, ça n'a rien à voir. Quoi. En plus, il y a une diversité de traitements, enfin une diversité de parcelles qui n'a pas du tout, c'est pas des grandes étendues de vignes comme on a. On s'est rendu compte, quand on a fait venir le petit violet de Provence, qu'il n'était pas du tout acclimaté à notre région. Et la première année qu'on en a eu, on s'est dit, mais c'est une saloperie de machin, et des pucerons tout le temps. On traitait, trois jours après, il y a encore des pucerons. Quoi. Et on s'est rendu compte que moi, donc il y avait des gars qui étaient beaucoup plus laxistes, qui ne faisaient pas, et ils n'avaient aucun souci. Quoi. Et donc, de ce moment-là, on s'est rendu compte que les auxiliaires n'avaient pas le temps de se mettre en place, et on a travaillé là-dessus. Donc, le petit livret, là, nous a permis, qui a été diffusé à tous les agriculteurs qui sont membres du comité de développement, de reconnaître ceux qui bossent pour nous, quoi. Et on s'est rendu compte que plus on traitait, plus on avait besoin de traiter, quoi. Et maintenant, on les connaît, et donc on a fait un travail remarquable là-dessus, quoi. Et il faut éviter, donc je suis entièrement d'accord avec le thème de la soirée, il faut éviter ces produits-là. Par contre, il y a des périodes, comme cet hiver qui a été prévu, bon, on a des invasions de pucerons, et en hiver, forcément, les chrysopes et les cirques et tout ça, les toxines sont pas en place, et donc il y a des invasions de pucerons qui posent de gros problèmes sur la culture. Quoi. Donc, ponctuellement, je pense que la matière tout, c'est compliqué. Quoi.
Donc là, vous pointez les effets du réchauffement climatique. Mais bon, pour revenir au Rumex, étant fils d'agriculteur jeune, plus loin là-bas, on fait le galop, j'en ai arraché aussi, on appelle ça du pareil. Là-bas, je ne sais pas comment vous les appelez ici, en breton. Voilà. Mais bon, il y a différentes techniques, donc pour être cohérent, je suis aussi dans une AMAP bio, donc là dans la région Rennaise, puisque je cuis à la campagne, je veux quand même avoir des produits, je peux tracer et connaître les paysans. Donc, Xavier, il s'appelle notre maraîcher. Donc, il a un problème de Rumex, il vient de reprendre, il a fini sa conversion. Et il y a des parcelles, alors il m'a expliqué la raison agronomique que je n'ai plus en tête. Il a eu pas mal de Rumex qui sont réapparus cet hiver. Donc là, on est adhérent de la MAP, et bien il nous a fait un chantier, lui aussi a travaillé. Les gens sont galettes, mais il a fait un chantier participatif. Et il ne faisait pas très beau ce week-end-là, ce samedi-là, mais bon, il y avait des amapiens, quelques dizaines. Et on a à peu près réussi à nettoyer le champ. Je pense qu'il faudra y retourner, effectivement. Il y a plein de racines qui restent et ça repousse tout le temps. C'est une saloperie. Alors souvent, c'est pas très dense, mais bon, c'est vrai que c'est une gêne. Donc là, ce que tu as dit, c'est la réalité. Il faut de la main-d'œuvre. C'est un peu ce qu'ont montré les vignerons. J'ai regardé un petit peu bon, sur l'agronomie, c'est vraiment ma spécialité, mais c'est bien gentil, c'est sûr, de dire bon, on ne met plus d'herbicides dans les vignes. Comment on fait? Donc il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, notamment il y a énormément de conversions en vignes bio, c'est dans le Languedoc-Roussillon. pas parce qu'ils sont plus vertueux ou je ne sais pas, que les autres. Peut-être le climat joue un petit peu, c'est un peu plus sec, ils ont besoin de moins de fongicides, ça je savais déjà. Mais c'est parce qu'ils sont plus pauvres, hein, c'est parmi, enfin c'était un des départements les plus pauvres de France, je pense qu'ils ont un peu progressé. Et en bio, ils gagnent mieux leur vie. C'est aussi une des raisons de la conversion. Et donc, en laissant les parcelles enherbées, alors avec des règles très strictes quand même, ils se sont aperçus que ça ramenait justement une plus grande biodiversité, il y avait plus d'auxiliaires, et ça agit même, donc ça affaiblit un peu la vigne, puisque ça pompe sans doute un peu d'eau et de nutriments, donc elle a moins de feuilles, et ils gagnent en fongicides. Enfin, là, ils passent en bio, donc ils n'ont pas besoin de fongicides, ou ils ne traitent plus avec du cuivre ou du soufre. Donc, il y a les techniques agronomiques qui peuvent faire énormément changer les choses, mais bon, c'est beaucoup plus de travail du sol, et c'est beaucoup plus de main-d'œuvre. Mais bon, qu'est-ce qu'on veut dans notre société? Moi, je suis médecin de formation, donc sincèrement, j'ai mis beaucoup de temps, parce que je suis près de la retraite, à me rendre compte des dégâts, à voir la gravité, le nombre de Parkinson que j'ai vu passer avant de savoir que quand ils étaient agriculteurs, c'était certainement les pesticides qui les avaient rendus malades. Quand on allait leur mettre des neurostimulateurs, parce que même les médicaments n'arrivaient plus à corriger leurs tremblements, leurs mouvements anormaux, c'était la chimie et non pas d'autres causes qu'on allait chercher avec des techniques sophistiquées, d'imagerie, ainsi de suite. On était complètement à côté de la plaque dans les années 80 et 90. Et donc, sans parler de l'épidémie de cancer ganglionnaire, c'est une caricature. Quand on voit un jeune de 30 ou 40 ans arriver avec un cancer des ganglions, on pense chimie, donc il y a deux solutions. Soit c'est un peintre, soit c'est un type qui a touché trop de phyto. Et c'est caricatural, mais c'est souvent comme ça. Sans parler, malheureusement, des enfants leucémiques, bon, à Rennes ou à Brest, malheureusement, dans le collectif, là, il y a quelqu'un qui vient de sortir d'une grève de moelle et pour un cancer des ganglions. Et bien, tous ces petits voisins dans les champs stériles, il y avait beaucoup d'enfants agriculteurs. Donc il faut vraiment vous protéger, vous d'abord, et c'est à vous qu'on pense. Moi, je suis fils d'agriculteur, donc je sais le poids que ça peut, enfin les maladies que ça peut faire, les dégâts dans les familles, et ainsi de suite. Donc on pense d'abord à vous. Après, c'est vrai qu'il y a des impératifs économiques, ça c'est compliqué. La plupart des gens, quand on fait des débats comme ça, voilà, posent la question, bon c'est bien gentil, nous aussi on est conscients, on essaie de se protéger, mais c'est le problème économique, la rentabilité. Ça c'est sûr, il n'y a pas de baguette magique, vous êtes dans une situation très difficile, vous souffrez. Moi, vu de l'extérieur, maintenant j'ai l'impression que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux qui ont le moins d'endettement, bon ça c'est pas, ça se joue pas comme ça. Et c'est ceux qui font les productions à forte valeur ajoutée, avec des labels, avec de la qualité, ou éventuellement du bio. Les producteurs de porc bio que je connais de près dans le coin où j'achète du cochon, ils le vendent à 3,50€. Donc, bon, voilà. Mais c'est une autre question, mais il y a le problème économique à prendre en compte, et on ne peut pas vous renvoyer dans les corps comme ça, c'est pas possible. Et la main-d'œuvre, ainsi de suite.
Ouais, juste pour eux. Moi, je suis agriculteur bio sur l'Orient. Je trouve bien ta démarche de venir là ce soir à t'expliquer aussi. Et justement, je trouve que c'est aussi, je pense, aujourd'hui aux agriculteurs de faire la démarche pour que les recherches aillent plus vers. Enfin, s'il y a du rumex et tout ça, c'est. Nous, on a fait des choses, c'est. Les pommes ne sont pas là par hasard. Pourquoi elles sont là, en fait, c'est aussi ça, pour ça que, voilà, c'est ça qu'il faut analyser. Il faut analyser le fond du problème, pourquoi les plantes sont là. Et il y a des pratiques et tout ça qui favorisent justement que le mec soit là et tout ça. Moi, en bio, je ne suis pas forcément bêté avec le mec. Et je pense que, voilà, faut s'unir et puis je pense que c'est à pousser, quoi, pour que les agriculteurs poussent pour que, voilà, il y a des méthodes qui sont naturelles. Ils ne sont pas forcément énormes en main-d'œuvre, je pense. Et il faut arrêter le business qu'il y a derrière.
Mais pour revenir par rapport au
problème de Romex, en fait, c'est un peu historique sur les parcelles. Il y avait des gars qui ne faisaient pas nécessaire, donc ça fait que y a la graine qui est dedans pour un beau petit bout de temps et voilà, il va falloir trouver une solution, quoi. Donc, peut-être que le sol, il y a peut-être un souci aussi, mais il y a surtout une antériorité de travail qui n'a pas été fait en temps et en heure. Quoi.
Ouais, c'est pour ça que derrière, enfin, le truc qui est là, c'est pas de l'amplifier non plus, quoi. Tu vois, si tu veux, c'est pas de continuer là-dedans, en fait, parce qu'au final, il faut faire gaffe que le sol, on a bien vu, a une vie qui est hyper importante. Et je pense, enfin, on l'a oublié justement par rapport à tout ce qui. Voilà, il faut toujours aller plus vite, toujours faire plus, toujours. Et on a oublié cette vie qu'il y a dans le sol, où on commence à produire du sol plus, quoi. Il y a plus de vie dans le sol, et là, ça. Aujourd'hui, on fait un profil de sol.
Ça, c'était vrai il y a quelques temps. Moi, je sais que quand je me suis
installé, donc c'était en 91. Mon père donc, faisait à peu près du lait, des légumes, quoi, chez toi. Et quand il y avait une petite bête qui se promenait sur le feuille d'artichaut ou de chou, eh ben, c'était systématiquement le produit, le tracteur qui sortait. Quoi. Donc maintenant, on analyse, on regarde qu'est-ce qui se passe. Et puis, même s'il y a un foyer de pucerons dans un coin, en artichaut notamment, eh ben, de toute façon, ça va nous coûter 100 euros le sortir le traitement, enfin le cuvée. Donc, si on laisse les auxiliaires travailler, ça va nous coûter aller à 5-6 euros. Il va y avoir quelques plans qui vont être verrouillés, et puis c'est tout. Quoi. Donc, depuis bien longtemps, on a compris que ça ne servait à rien de traiter de bastonner de la peau. Il y a quand même une grande réflexion quand même dans l'agriculture, parce que tout ce qu'on utilise nous coûte très cher. Quoi. Nous coûte très cher, et on a des produits qui nous sont payés à des cacao pour des prix des cacahuètes. Quoi. Donc il y a une grande réflexion, peut-être pas encore assez. Je pense que ce que vous disiez, ce que vous voyez dans vos différents services, je pense que ça, c'est des choses qu'il faut diffuser. Ne pas avoir peur de dire, hein, il n'y a pas de sujet tabou de toute façon. Mais je pense qu'il y a une grosse prise de conscience quand même que tout n'est pas fait tout et n'importe comment. Quoi. Surtout ici, au moins en Bretagne, parce qu'on a quand même des IFT qui sont très basses au niveau légumes, quoi, parmi les plus basses de France. Hein. Pardon, IFT, c'est indice de fréquence très bas.
Oui, juste au passage, j'en profite pour une question néophyte. Je voudrais savoir, parce qu'effectivement, on ne peut pas changer du jour au lendemain. Et quand je vois les viticulteurs, notamment avec la parcelle, comment on passe d'une exploitation conventionnelle, peut-être il n'y a pas de séparation de parcelles, enfin, comment se fait la transition pour tout agriculteur vers le bio?
Oui, moi, je voudrais juste répondre sur un point, c'est que la transition est déjà prévue, a été discutée longuement lors des accords de Bruxelles, où, par exemple, concernant l'agriculture, il y avait éco-phyto, 18, qui est reporté à 2025, qui vient d'être reporté à 2025. Ce qui veut dire que le temps de la transition, il est sans arrêt par l'industrie chimique, reporté. Et les agriculteurs, les chambres d'agriculture dont monsieur vient de parler à l'instant, effectivement, n'ont plus consort, pas simplement qu'elle, l'INRA, enfin, il y a une évolution. En ce moment, il y a une évolution importante des institutions et que ce soit des coopératives, de la conscience, tout simplement. Concernant tout ce qui est pesticides, on se rend compte qu'on est en état de danger grave pour l'humanité. On parlait tout à l'heure dans le film des abeilles, la loi de Joël Labbé, de notre ami Joël Labbé, malheureusement, ne s'applique pas à l'agriculture. Elle ne commence qu'en 2020, si ma mémoire est bonne.
Non, c'est 2017 pour les services publics.
Oui, voilà, et puis 2020, ensuite.
2019, ça a été ramassé. Les dates ont été modifiées.
Là, j'étais resté à 2020.
Pour les usages agricoles des particuliers, pour les jardiniers.
Voilà, pour les jardins. Mais l'agriculture n'est absolument pas concernée par cette loi. Est-ce que.
Elle est concernée par Ecofito.
Oui, voilà, mais par Ecofito, par le premier aspect est reporté. Par contre, la loi Joël Labbé n'apporte rien dans cet esprit de transition-ci. Évidemment, il y a les zones urbaines, il y a les collectivités territoriales, il y a les particuliers, mais nous avons quand même un gros problème qui est celui de l'agriculture en Bretagne, et ce problème-là est mis tout à fait de côté.
Une chose qui n'est pas négligeable quand même dans la loi Labbé,
c'est le nombre de personnes utilisatrices exposées et d'entourage domestique ou riverain qui ne sera plus exposé, donc soit à la maison, soit dans les espaces publics. Et ça, ça concerne quand même des millions de gens. Donc, il va y avoir une partie de la population qui va voir baisser son exposition diffuse. Hein, parce que voilà, il y a une exposition diffuse avec notamment un vecteur. Moi, je vais reparler de ça avant de parler de la transition. On oublie toujours la quantité de pesticides que toute la population absorbe par voie respiratoire. Parce qu'on parle toujours de la contamination par l'eau, c'est 10% de notre charge en pesticides. La contamination par l'alimentation, c'est dans les 60%. Et puis on s'arrête là. Et bien donc, pour arriver au 100%, il faut 30% qui est absorbé par voie respiratoire. Parce que respirer, on le fait jour et nuit, 24 heures sur 24. Et en Europe, il y a 70 nanogrammes, donc c'est comme les nanos dont parlait monsieur bon matin, c'est des milliardièmes de grammes, ça paraît pas important comme ça, par mètre cube. Mais on respire quand même, de mémoire, 1000 mètres cubes pratiquement par 24 heures. Donc si on fait les chiffres, effectivement, la quantité absorbée par la respiration dépasse la quantité absorbée par l'eau, et les chiffres sont cohérents, c'est à peu près 3 fois. Et donc, toutes les expositions respiratoires ne sont jamais prises en compte dans les données toxicologiques d'exposition de la population, dans les données toxicologiques pour les professionnels, ce qui explique beaucoup de maladies des agriculteurs. À l'époque où on ne mettait pas de masque, où il n'y avait pas de réentrée, de délai de réentrée, ça n'existe que depuis 2002, ainsi de suite. Et donc, c'est en contradiction avec les études où on nourrit les rats, voilà, on met des pesticides dans leur nourriture, et c'est évident. La cause, c'est que l'intoxication, notamment des professionnels, se fait par voie respiratoire. Donc ça, c'est une chose très très importante à ne pas oublier quand on parle de pesticides. Un tiers de notre charge, pratiquement, vient par voie respiratoire, et là, c'est la population générale, c'est tout. Alors, pour revenir à la conversion, ça bouge quand même, de mémoire, en 2000, ça doit être le chiffre 2015, l'année dernière, plus 17% de SAU en bio. J'ai plus le nombre d'exploitations, mais 10% d'emplois agricoles aujourd'hui en France, parce qu'il y a beaucoup plus de main-d'œuvre. Donc c'est pas 10% des fermes ni des agriculteurs, mais 10% de la main-d'œuvre agricole, tout confondu, travaille dans le secteur bio en France. Donc ça progresse. Ça nécessite, donc c'est une conversion, hein, pour avoir le label, c'est entre 2 ans et demi à 3 ans, donc pour être certifié, donc de conversion. Et ça pose un problème économique pendant cette période-là. Donc les gens sont obligés d'investir, de changer de technique, il y a une chute de rendement, et ce n'est pas valorisé au prix du bio. Donc là, il y a un effort économique à faire, plus tout l'effort agronomique, parce que bon, vous, monsieur, visiblement, vous savez très bien gérer comment les auxiliaires, ainsi de suite, l'agronomie, vous connaissez bien votre métier. Mais a priori, il y a des gens qui n'ont pas cette formation et qui ont un peu oublié toutes les notions d'agronomie. Et donc il faut réapprendre pour bosser en bio, les rotations, les assemblages de cultures. Par exemple, il y a un paysan, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qui nous expliquait un grand GAEC céréalier de mémoire en Vendée. Il s'appelle Ulule. Donc il doit faire... ils sont... de mémoire 6, donc 50 hectares chacun, 300 hectares, ils font plus de 100 hectares de céréales. Aucun fongicide sur ces céréales. Comment il fait? Il fait des cultures combinées. Il a 3 variétés de céréales, je ne sais plus lesquelles, il y a vin épeautre, ainsi de suite, dans la même parcelle, et ça lui permet, il sème plus dense, moins d'herbicides, donc il en met aussi, donc il n'en met pas. Et il n'a pas de maladie fongique parce qu'il combine les céréales. Donc c'est de la technique agronomique. Et après, il expliquait, il n'y a pas de problème, il y a des trieurs qui peuvent lui refaire les 3 variétés de céréales, ou il peut les garder, les mixer, si ça va comme pour aliment pour son bétail, si ça marche, puisqu'ils ont aussi des vaches dans ce GAEC. Donc c'est de la technique. Il faut que, quand l'agriculteur choisit de faire une transition, il y a tout un moment, une étape de formation qui n'est pas rien. Et plus la peur, comme dans tout changement, d'échouer, ça ne marche pas, ou d'avoir un problème économique. Donc c'est une grosse charge, c'est pas ça. Mais bon, il y a des organismes professionnels qui encadrent, qui aident les gens, ainsi de suite. Tous les réseaux d'agriculture biologique au niveau national, il y a des agro-bio pour la Bretagne, en tout cas en Ille-et-Vilaine, les champs d'agriculture ont aussi des techniciens en bio, enfin, il y a des gens, il y a des spécialistes pour ça. Mais c'est un problème, et en premier économique et de formation. Enfin, voilà ce que j'en sais, s'il y a d'autres personnes.
Donc, juste pour terminer, et pour finir, donc, ben, nous, pour Ancienal, c'est très bien de souligner qu'il y a des efforts qui sont faits et qui continuent à être faits. Ça, c'est clair qu'on peut souligner, mais qu'il faut, je pense, aller de loin, et que le truc, c'est pas jeter la pierre aux agriculteurs conventionnels, et le débat pas conventionnel bio, c'est plus axer la recherche vers des trucs qui soient plus cohérents.
Et qui économiquement, je suis breton aussi comme tout le monde, ça ne me plaît pas de voir les agriculteurs bretons dans la difficulté, que les produits soient mieux valorisés, que dans les filières, et pas apparemment en bout de chaîne, la grande distribution où ils produisent apparemment des légumes qui ne les vendent pas si bon marché forcément que ça, toujours dans les villes, mais en tout cas, ils gardent, si j'ai bien compris, la grosse partie de la valeur ajoutée ou du bénéfice. Ça dépend peut-être des filières, comment c'est organisé, mais il y a aussi l'autre axe, mais bon, vous devez le savoir, c'est vraiment les réseaux locaux. Les produits valorisés dans les circuits locaux, les magasins à la ferme, ainsi de suite, sont plus intéressants pour les agriculteurs, et les bio s'en tirent, souvent en entrant dans les réseaux locaux, en faisant des magasins à la ferme, en faisant une partie de la commercialisation, et là, toute la marge, mais bon, c'est de la main d'œuvre, c'est du travail en plus, hein, c'est sûr. Mais donc, ils n'entrent pas dans les circuits de la grande distribution.
John, pour finir, ils sont aussi, plus parce que dans la question, il y avait par rapport au voisinage, donc il y a par rapport au voisinage, c'est des traitements qui peuvent être mis sur la parcelle. Donc il y a un contrôle par un organisme certificateur minimum dans l'année, enfin un contrôle où on est prévu, et un contrôle est déterminé. Donc si la parcelle est. S'il y a eu un peu de traitement sur une parcelle bio, en fait, on la déclare à l'organisme certificateur et on ne peut pas l'utiliser. Elle est déclassée.
Oui, par contre, par rapport à la question de madame, là, c'est, je me demande comment ils font dans un patchwork de vigne comme ça, comment réussir à avoir une parcelle qui est à quoi. Enfin, c'est des morceaux de 25-30 heures là-dedans, et puis. Si tous les hommes sont en train de traiter, bon, je pense que ça doit être compliqué d'avoir quelque chose de neutre là-dedans, quoi. Enfin, bon. Et par contre, je me demandais à terme, parce que jusqu'à présent, il n'y a que l'hydroxyde de cuivre qui est homologué pour la lutte contre le mildiou, enfin essentiellement le mildiou, ce qui est un gros, gros problème ici en Bretagne, notamment avec l'humidité. Sans ce produit-là, comment on fait, quoi? Parce que la pomme de terre, ça n'existera plus. Il n'y a pas de légumes qui, sans hydroxyde de cuivre, ne pourront plus être cultivés, quoi, je pense. Et le problème, c'est que c'est l'accumulation, c'est du métal, quoi, donc, qu'on accumule dans le sol, quoi. Donc est-ce que dans 5, 10, 15 ans, on ne va pas avoir une stérilisation de ces sols-là?
Je
ne
dis pas que
vous pourrez
le faire dans l'exploitation, mais je pense que ça vaut le coup d'aller voir des gens qui travaillent en permaculture. La permaculture, c'est l'association aussi des cultures. C'est-à-dire de ne pas faire des parcelles monocultures. Je pense qu'il y a vraiment on a développé la monoculture à partir sur des grandes parcelles, à partir du moment où on a eu la mécanisation et les pesticides. On a dit beaucoup plus une plus petite parcelle. Parce que la vigne, c'est pas de la monoculture, même si c'est une parcelle, c'est de la monoculture. C'est des petits propriétaires, des petits. Et c'est un énorme problème aussi en bio. Mais si il y a qu'un exploitant bio ou une parcelle bio et toutes les autres peuvent sont traitées, ne serait-ce que par les valorisations, souvent il y a un peu de pesticides qui vont. Et autrement, si c'est la seule qui n'est pas traitée, eh bien, généralement, elle va se retrouver avec les problèmes des autres que les autres n'ont pas pris. Elle risque de se retrouver aussi. Donc ça veut dire que c'est aussi des choix politiques à un moment donné. C'est comment on oriente. Je suis désolée, la politique agricole commune, ça a complètement changé le visage de l'agriculture en 40 ans. Donc
les choix politiques jouent beaucoup sur l'orientation des productions. C'est vraiment à l'échéance du derrière, d'une vie. Donc on peut refaire d'autres choix. Il faut pouvoir les faire. Donc c'est du courage. Mais sur l'histoire de l'endettement, on pourrait très bien jouer l'étalement de l'endettement pour des personnes qui veulent partir sur d'autres techniques de production. Hein, c'est réétaler l'endettement et prendre en charge les frais que ça occasionne. Il y a des tas de possibilités. Sauf au moins. Pour le moment, les politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sous la pression. Donc ils fonctionnent sous la pression. On a trop de ports, et ben non, on va faire des bâtiments de ports en plus. Je suis désolée. Le port français, c'est 5% du port mondial. On n'arrivera jamais au prix mondial. La France ne fera pas le prix mondial du port. Donc ça ne sert à rien de se battre là-dessus. C'est un tonneau d'année. On verse de l'argent pour rien.
Le prix cible des Allemands pour le chlore, c'est 0,90. Les Bretons ne vont pas résister. Eux, ils sont capables de produire à 0,90 euros le kilo, avec des ouvriers polonais, des abatteurs roumains, etc. Donc, c'est... Juste sur le vin, sur les pesticides dans le vin, on ne pourra pas répondre, il n'y a pas de réponse officielle, parce que j'ai bien revérifié avant de venir, ça m'a beaucoup intrigué. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de dosage de pesticides dans le vin de consommation. Il n'y a pas de limite maximale de résidus, pour parler en termes officiels, dans le vin. Ça n'est pas dosé dans le vin. C'est dosé, il y a une réglementation sur le raisin en cuve, avant fermentation. Donc, la réglementation sur le pesticide dans le vin ne s'applique qu'au moment de la récolte, à la mise en cuve, après il n'y a pas de dosage. C'est pour ça que FC peut choisir, c'était en 2013 aussi, l'année où Génération Future a fait les pesticides dans les cheveux là, des vignerons, ils ont dosé des pesticides dans les vins. Et là, c'est une catastrophe. Le vin de Bordeaux qu'on avait le plus, il y avait plus d'un milligramme de pesticides par litre, par kilo, par litre de vin. Donc, dans l'eau, la norme, c'est... par pesticide, c'est, si on fait la somme de tous les pesticides, c'est 5 millionièmes de grammes, 0,5, pardon. C'est 0,1 par molécule et 0,5. Donc vous rendez compte, on multiplie par 10 puissance 3 par 1000. Et donc, ça, c'est en production conventionnelle. Ils avaient aussi dosé des vins bio, effectivement, ils n'avaient pas des grandes séries, sur 10 bouteilles, il y avait 4 bouteilles de bio où il y avait des résidus détectables. Donc, par imprégnation, dérive, effectivement, il y avait du passage, mais ils avaient qu'une ou deux molécules. Dans le Bordelais, le record, c'était le Bordelais qui était le plus... 100% des bouteilles de Bordeaux on avait. Une bouteille, le record, avait 14 molécules, et la dose la plus élevée, c'était 1,5 mg, pratiquement, dans une bouteille. Donc, là, il y a quelque chose d'étonnant, qu'il n'y ait pas de limite maximale de résidus, alors que plein d'autres produits, les légumes sont contrôlés sur les marchés, le vin il est vendu comme ça. Bon, il y a des tas de bizarreries comme ça dans le monde agroalimentaire quand on commence à creuser, mais bon, c'est une de plus.
Je voulais juste rebondir sur plein de choses qui ont été dites, parce que bon, moi je ne suis pas agriculteur, je suis aussi fils d'agriculteur, ça a sauté une génération, mon fils est en école d'agriculture, et en fait... ce qui a été dit là est tout à fait juste. Je pense que le problème est d'abord politique. Bon, ce soir, on est malgré tout pas très nombreux. La plupart des gens qui sont là sont des convaincus. Donc, moi, je ne mets pas un mot sur toutes les têtes, mais je connais à peu près tout le monde. Et monsieur a eu le courage de venir, il est tout seul. Mais ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, au niveau politique, ça bouge, mais ça bouge que sous la pression. Et les lobbies, pour l'instant, sont beaucoup plus forts que nous. Il n'y a qu'à voir dans les écoles d'agriculture, pour l'instant, le discours, il ne change pas beaucoup. Les élèves ont une sensibilisation à l'agriculture biologique, mais ça reste à la marge. Mon fils, il a fait un bac professionnel, maintenant il est en BTS, production végétale. Mais malgré tout, c'est vraiment minime la sensibilisation qu'ils ont. On est encore trop axé sur une agriculture conventionnelle. Le souci, comme a dit tout à l'heure monsieur, parlait du remix, mais c'est vrai que, comme ça a été dit après, justement, moi je suis jardinier à mon petit niveau, mais malgré tout, je pense que la nature, c'est un état d'équilibre. Et comme il a dit justement, le Rumex, on a un Rumex, il est là, mais il y a des encyclopédies qui existent, qui s'appellent les encyclopédies des plantes bio-indicatrices. Et en fait, à chaque plante qui subsiste à un endroit, il y a une raison pour laquelle elle est là. Et en fait, le problème de l'agriculture actuellement, je pense, et on pourrait le dire aussi dans les potagers, c'est pareil, mais c'est plus facile d'analyser à petite échelle qu'à grande échelle. Mais je pense que l'agriculture, on l'a trop spécialisée. En fait. Les éleveurs laitiers font du lait, les légumiers font du légume, les producteurs de porc font du porc. Et quand le cours va mal, ben, tout le monde a la corde autour du cou. En fait, et on le voit bien actuellement, on est au bout d'un système. Et ce que je trouve dommage, c'est que ben, malgré tout, actuellement, les politiques, ils ont la pression. On voit bien, malgré un ministre qui veut essayer de faire bouger les choses, ben, le vrai ministre de l'Agriculture, c'est le président de la FNSEA, qui défend les lobbies oléagineux. Je pense qu'il faut le reconnaître. Je pense qu'actuellement, il y a plein de décisions qui sont contrées. Le plan Ecofito 2018, il est repoussé à 2020. Voilà. À chaque fois, on repousse la balle, mais je pense qu'à un moment donné, le constat, on est tous d'accord sur le constat. Là, l'agriculture, actuellement, elle va très mal. Et si on ne change pas de système, je pense que, comme ça a été dit justement tout à l'heure, les agriculteurs français n'arriveront pas à lutter. C'est terminé. La mondialisation, là, comme moi, je suis en train de lire sur les cartels du lait. Ça s'appelle comme ça le titre des bouquins. Il y a des fermes, actuellement en France, on a un débat sur la ferme des 1000 vaches, mais on a 15 ans de retard. En Arabie Saoudite, ils ont des fermes de 20, 30, 40 000 vaches. Et les agriculteurs français n'arriveront pas à lutter dans l'agriculture mondiale telle qu'elle est partie là. Soit on change de système, soit l'agriculteur français, je suis un peu pessimiste, malheureusement, parce que si je devais refaire ma vie, actuellement, je serais agriculteur. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mon fils est parti pour faire ça, je ne sais pas s'il arrivera à s'installer un jour. Moi, je lui dis que dans l'agriculture agricole, il ne pourra pas. Donc, soit on change de système, soit je pense que tout le monde va couler. Par contre, ce qui est dommage, là, ce soir, c'est que bah, on est tous entre convaincus, chacun dans son domaine, mais bah, les citoyens lambda, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et ça bouge malgré tout, trop doucement, je pense.
On a été sollicité, un certain nombre à intervenir dans ton secteur-là, par des lycées agricoles. Donc, BTS, moi ça va être des BTS que je vais aller voir bientôt au lycée d'Ureux, mais en gestion d'entreprise, BTS Max, mais il y a aussi des gens en terminale. Et en fait, ils m'expliquaient donc qu'ils doivent, dans leur formation, acquérir Certiphyto, mais Certiphyto, c'est essentiellement enseigné par des gens des COP, et pour ne pas citer, c'est COP de France. Donc, les lycéens, donc d'un autre lycée, c'est ADOL, un grand lycée agricole privé, ils sont venus chercher les environnementalistes, nous avons entendu parler notamment des problèmes de santé, et ils ont voulu qu'on vienne leur parler des problèmes de santé, de ce qui était mis dans le rapport de l'INSERM, des maladies professionnelles, ainsi de suite. Et leurs copains d'Ureux aussi. Donc on va le faire, on va venir avec des agriculteurs qui sont malades aujourd'hui, un parkinsonien et quelqu'un qui survit à un cancer des ganglions, à lymphome, deux agriculteurs, enfin un agriculteur. L'autre était technicien d'essai, pesticides et sélection d'hybrides chez Coralis. Voilà, et maintenant, malheureusement, il est malade, il ne travaille plus. Et donc, ils vont venir leur donner leur expérience. Et voilà. Donc, ça bouge et les jeunes sont conscients. Et voilà. Il faut, comme vous dites, il faut de la patience et les gens intègrent les choses et voient aussi leur intérêt qu'on prenne les choses. Moi, je suis optimiste. Moins de tout.
Moi, je voudrais rajouter un mot, il y a la formation qui est effectivement très importante, ce que tu viens de soulever. Si on regarde, pour l'aspect qui m'est beaucoup plus proche, les contenants alimentaires, tout ce qui est alimentaire, on s'aperçoit que dans les écoles de formation de jeunes restaurateurs, qu'est-ce qu'on leur livre aujourd'hui? On leur livre des boîtes de sauce toutes faites, venant de sociétés industrielles ne travaillant qu'avec du chimie. Il n'y a même plus la qualité de la nourriture de telle qu'on pouvait l'imaginer il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on est vraiment dans un monde de chimie, de perturbateurs endocriniens qu'on nous prépare, et nos jeunes sont formés dans les écoles aujourd'hui, les écoles qui sont chargés de leur apprendre à nourrir de cette façon-là. Et ça aussi, c'est très inquiétant en dehors des écoles de formation professionnelle de façon globale. Tout à l'heure, tu parlais des nanoparticules. C'est vrai que respirer tous ces terres, tous ces produits, que ce soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur, qu'on ne voit même pas, ces nanoparticules, c'est comme ça qu'on les appelle, sont le futur danger de demain. Et ça, il faut qu'on en ait bien conscience, c'est pas simplement les pesticides en tant que tels, c'est ces mini-particules invisibles qui sont la véritable menace pour notre santé.
Je suis pas patiente comme vous, je suis assez impatiente. En fait, voilà, je vois Jean-Yves qui nous dit l'évolution en une génération par rapport à ton papa et ce que tu pratiques aujourd'hui, il n'y a pas photo. On voit après comment, parce que on est les voisins, je suis sur Saint-Jean, et en fait, le nombre de personnes qui sont, des exploitants qui sont en conversion, on voit aussi le travail des associations de prévention, d'accompagnement pour aller vers le mieux. On voit aussi que les maladies sont reconnues, donc a priori, on progresse. On y va patiemment, mais là où je suis impatiente, c'est que je vois quand même que, apparemment, on a quand même utilisé 10% de plus de pesticides entre 2013 et 2014, progression de 10% ça va où ça vient d'où et, enfin, je vois beaucoup d'efforts d'un côté et ça continue de cavaler, donc c'est un truc que je ne comprends pas.
Je ne peux pas répondre. Là, on est obligé d'interroger. Les agriculteurs dans la salle pour nous dire pourquoi ils sont passés à plus 9 chaque année les deux années précédentes là, en pesticides, enfin c'est au niveau national. Hein,
oui, bien sûr, mais ouais.
C'est le tonnage global dont on parle à chaque fois ou c'est le tonnage de matière active?
J'ai regardé, c'est les deux indices, parce qu'il y a l'indice IFT ou NODU, c'est la fréquence de traitement et en tonnage aussi. Les deux sont à peu près plus 9%.
L'émission d'Élise Lucet. Ouais. Malgré la baisse du volume global de pesticides vendus dans le monde, le tonnage de matières actives augmentait parce que la concentration des produits avait tendance à augmenter.
C'est les fréquences de traitement et les volumes. Ne serait-ce qu'au niveau mondial, toutes les cultures OGM américaines ou brésiliennes d'Amérique du Sud, ils ont d'énormes problèmes de résistance, ce qui a été dit. Il y a des résistances des insectes, il y a des résistances des plantes. Là, au Brésil, ils sont à 14 variétés de plantes résistantes, aux USA c'est pareil. Donc ils sont obligés d'augmenter les doses. Et ils ont inventé un produit qui est une folie, je ne pensais pas que c'était vrai. Ça vient d'être interdit aux USA cette année, c'est encore été mis au Brésil. Comme les plantes résistantes sur les OGM poussaient malgré le glyphosate. Donc ils ont rajouté les composants du napalm. Donc le noir, il y a un phénoxyle de 4D, plus un autre qui doit être pentachlorophénol, enfin des vieux produits. Donc ils ont mis les deux composants de ces produits qui sont interdits pratiquement partout, en plus du glyphosate. Et ça vient d'être interdit aux États-Unis. J'ai plus le nom de marque américaine, mais c'est vraiment, ça paraît fou, mais c'est la seule solution qu'ils avaient trouvée. Je crois que ça se fait encore en Argentine aussi. À cause des résistances. Et donc, les agriculteurs américains qui sont dans la filière OGM sont extrêmement déçus. Les rendements ne sont pas au rendez-vous, ceux qui étaient promis par les compagnies. Ils ont des contrats de 5 ans ou plus, ils ne peuvent pas en sortir. Il y a des résistances, la troupe d'insectes et d'herbes. Et la troisième raison, c'est que les prix ne suivent pas. Ils sont obligés d'utiliser de plus en plus. Multiplier les doses de glyphosate, qu'on leur vend de plus en plus cher, donc c'est ça qui fait qu'ils ne rentrent pas dans leur sous. Donc il y a un problème, et c'est une cause au niveau mondial d'augmentation que je connais. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les agriculteurs. En Bretagne, je sais que notamment le Roundup a beaucoup augmenté les herbicides. C'est aussi parce qu'en ce moment, on détruit des prairies pour faire des céréales, parce que ça marche bien, c'est rentable. Les céréales sont rentables, même dans des terres qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas des terres à blé, et donc sur des zones où on ne mettait pas d'herbicides, on en met pour en blader. Donc c'est une raison, il y en a peut-être d'autres, après je ne connais pas toutes les raisons agronomiques, mais effectivement, c'est l'analyse officielle. Même le ministère de l'Agriculture a publié ses chiffres en augmentation de 9,50 sur le NODU et le tonnage, c'est l'analyse officielle des cofitos, c'est le bilan des cofitos officiels. Je ne sais pas ce qu'on pense les agriculteurs sur l'augmentation du tonnage, mais bon, ça dépend des cultures, etc.
Non, je pense que selon les années, si le printemps est un peu plus pourri, il y a plus de pression dans mon projet que. Voilà. Donc, par exemple, en 2007, donc 2007, rappelez-vous, printemps hyper pourri, quoi. Printemps et été pourri, d'ailleurs. Des produits conventionnels ont été autorisés en culture biologique. Sinon, il n'y avait plus une seule communauté en France. Quoi. Donc, c'est pour vous dire la pression qu'il y avait à ce moment-là. Et on aurait eu deux années de ce type-là. Je pense que il y a plus de producteurs en production biologique en pomme de terre. Enfin, donc, de temps en temps, c'est vrai qu'on a besoin de pouvoir intervenir. Quoi. Je pense que en Bretagne, enfin, je ne sais pas trop ce que ça donne en Bretagne, je sais qu'il y a une grosse baisse d'insecticides, ça c'est les chiffres que je connais sur la coopérative de Triskaga, une très très grosse baisse parce que ben, déjà on ne fait quasiment aucun insecticide sur les céréales, ici en Bretagne on ne le fait pas, je sais que c'est généralisé sur les plaines de céréaliers. Après en fongicides, on passe souvent à 3 fongicides maintenant sur céréales, mais à demi-dose, parce qu'on s'est rendu compte qu'à faire à pleine dose, ça ne servait à rien. Donc c'est pour ça qu'on passe peut-être 3 fois au lieu de 2 fois auparavant à pleine dose. Quoi. Et enfin, la troisième fois, elle est si amusante. Quoi. Donc c'est beaucoup plus fractionné. Je pense que par rapport il y a 25 ans, ça a quand même sacrément changé. Quoi. Et je voudrais revenir un petit peu sur mon expérience parce que donc 2009, il y a eu, si vous vous rappelez, les invasions de Vanesse. C'est un papillon qui remonte du Maroc et qui passe par l'Espagne. Donc moi j'étais en formation pour passer en bio, donc avec la chambre de culture. Et donc ça se passait pas mal jusqu'à ce que ce nuage de Vanesse soit arrivé sur nos cultures. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, plein de chenilles qui passaient sur les routes, là, toutes les routes étaient donc noires de chenilles. Et donc j'avais une parcelle de 4 hectares d'artichaut qui devait donner en fin d'année normalement, donc la meilleure période où on produit. Et en 4 jours, donc j'avais utilisé du Bacillus turgensis, donc le produit homologué en bio. Mais vu l'invasion qu'il y avait, bah, c'était comme arroser avec un arrosoir, enfin ne rien faire. Et donc, j'ai oublié d'intervenir avec un produit, un insecticide, pour essayer de sauver la saison. Et ceux qui n'ont pas fait, ben, ils ont perdu la saison. Donc, ça veut dire que les conséquences, ensuite, après, pour un moment, c'est très, très compliqué. Quoi. Et de ce moment-là, je me suis dit, eh ben, je vais essayer de raisonner mon fonctionnement, mais par contre, c'est comme nous, quand on a besoin de prendre des antibiotiques, on ne les utilise pas tout le temps, comme disait le film, mais de temps en temps, il faut les utiliser. Alors, on est sur quoi. Voilà, c'est pour ça, plus d'insecticides, comme il y avait marqué au départ dans le journal, je me dis, ça va être compliqué quand même.
Par contre, est-ce qu'il y a eu un travail du fait, pourquoi il y a eu ces invasions? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a certaines populations qui n'ont plus aucun prédateur. Ils n'ont plus aucun prédateur, et donc ils peuvent se développer de manière folle. Hein, parce qu'on a fait des ruptures dans les chaînes alimentaires. C'est exactement comme pour le sol, il faut retrouver des équilibres et la biodiversité permet les équilibres.
Oui, en fait, je voulais poser une question, c'est revenir sur les questions de santé publique encore, parce qu'il y a plusieurs années, François Veillette était vu à Lannion devant 30 personnes un samedi soir. Et je lui avais posé une question parce que je voyais des voisins qui continuaient à mettre le Roundup et pourtant, ils lisent le télégramme l'Ouest France et le professeur Bellet disait multiplication de cancer dans la région de Bordeaux. Je pense que la résonance, le trou qu'il y a dans le monde agricole, ça doit vous inquiéter à des moments sur la santé et pour les riverains aussi qui habitent autour des fermes ou des champs. Donc cette question de santé doit vous tarauder à des moments, je pense. Voilà. Je ne sais pas, vous. Vous avez enfin, je me rappelle Julien Lecoff ici à Landeur aussi qui l'a dit, c'est vrai que ça doit vous inquiéter. Voilà. Les questions de santé touchent tout le monde et vous en premier.
Voilà. Moi je vois avec quelques voisins qui désherbent leur cour ou leur jardin. Nous quand on utilise un traitement, on sait exactement quelle surface on a à faire. On sait à quelle vitesse on le fait, puis on sait exactement la dose qu'on doit mettre. Par contre, je vois tous mes voisins qui, quand ils remplissent leur petit PV, là, je me dis, la vitesse à laquelle ils vont, c'est pas 10-12 km/h comme nous, ils sont même pas, ils sont à peine au pas et puis ils sont en train de noyer la Oiserne avec leur hotdog. Je pense qu'il y a une très mauvaise utilisation aussi de ce qui, enfin de produits chez les particuliers. Il y a une étude qui a été faite sur le secteur Brest, Landerneau et Plougastel-Daoulas au niveau des achats de pesticides, quel que soit, donc c'était tout confondu. 50% du tonnage utilisé était utilisé par des particuliers. Je sais qu'il y a une densité de gens qui sont assez. Après, il y a beaucoup de maisons par là-bas, mais la moitié, donc je ne pense pas qu'ils détiennent la moitié du territoire, et la moitié de l'utilisation des produits était faite par des particuliers.
Donc, la question de l'usage des particuliers va être résolue par la loi Labbé, puisque si la date n'est pas changée par une future assemblée, au 1er janvier 2017, il n'y aura plus l'autorisation d'achat de pesticides pour les particuliers, les jardiniers.
2019.
J'ai dit quoi ?
2017, les
particuliers. Non, 2017, c'est pour les collectivités, 2019, les particuliers. Donc, ce sera résolu, et officiellement, disons, au niveau national, la consommation, un peu plus de 90% c'est agricole en pesticides, et il y a 8 à 9% qui sont pour les particuliers.